Chapitre 2. Johanna se leva avant tout le monde. Elle se prépara un puissant café et sortit dans la cour, sa tasse à la main. Le Shabbat, elle n'arrosait pas le mur et ne rinçait pas les restes de l'homme et de l'animal qui souillaient le mur. Elle avait une heure pour elle avant que toutes les grâces ne s'éveillent et ne se lèvent. Elle s'installa dans le vieux fauteuil couleur bordeaux, s'y enfouit et pensa à Dieu. S'il y a quelque chose de bien dans la Bible des Juifs, c'est le Shabbat. Dieu refile au monde un infarctus et, d'un seul coup, la pression de l'univers descend à zéro et le silence se fait. Le pouls se ralentit, les nerfs se calment et les doigts enflés se dégonflent. Si elle avait une bague, elle se l'aurait mise au doigt ce jour-là, mais elle n'en avait pas, ni d'autres bijoux d'ailleurs. Elle n'avait que deux boucles d'oreilles en or, de la taille d'un petit poing. Ses breloques ne lui ajoutaient pas grand-chose, mais lui permettaient au moins de garder les trous ouverts pour le cas où l'avenir lui apporterait des boucles qui vaillent la peine de garder les trous ouverts. Qui sait, peut-être un jour. Quoi un jour, Johanna? Quoi un jour? Sottise, tu as déjà 60 ans. Qu'est-ce qui peut bien encore t'arriver dans la vie? Ce qu'elle cherchait, c'était 5 ou 6 ans encore chez Madame Hanna, le temps qu'Angela puisse s'acheter un potager en marbre, un appareil pour Nicoletta et un vélo d'occasion pour Adriane. Et pendant ces 5 ou 6 ans, Madame Hanna devrait faire la demi-morte quand on frappait à sa porte, et depuis un moment, elle n'avait elle-même plus de respect pour son vieil âge. Elle avait repris son tempérament de jeune fille. Et quant à ce qu'elle faisait la nuit, Dieu préserve. Johanna se signa. Elle n'osa penser aux endroits où se rendait Hanna Yona la nuit. Il aurait suffi que quelqu'un la reconnaisse là-bas et la dénonce, et alors tout irait capoute, le travail, les dents, le marbre, le vélo et tout le reste. Il ne manquait plus qu'elle se casse une jambe ou qu'elle boive trop de whisky et se mette à bavarder. Elle avait déjà 77 ans, Madame Hanna, et au lieu d'aller de l'avant, elle marchait à reculons. Elle se tournait la tête comme une jeunette, et justement maintenant, quand tout allait bien, la voilà qui prenait des risques et faisait entrer ce poète à la maison. Ce type-là sentait l'œil et l'oreille du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sociale. Une femme de l'âge de Madame Hanna aurait dû respecter ses 77 ans et remercier Dieu d'avoir un gîte, des dents et de la nourriture. À son âge, on ne demande pas que cela aille mieux, on espère juste que cela n'empirera pas. Mais ici, en Israël, les gens vivaient trop bien. Dans son village à elle, les gens de cet âge avaient tous des gencives édentées, ils suçaient de la canne à sucre et mâchaient du pain mouillé et de la bouillie de maïs. Johanna n'aurait pas été surprise de voir les oiseaux d'ici volant en arrière. Dans ce pays, plus ça allait mal, mieux cela allait. On y manquait d'eau et de pluie, les bombes des terroristes pleuvaient de partout, et c'était toujours la guerre pour demain. Et les gens, ils couraient tous aux grandes surfaces. Peut-être Dieu leur donnait-il du bon temps avant de leur passer un savon. Mais il ne fallait pas être jaloux. Heureusement qu'elle avait un passeport roumain. En Roumanie, il n'y avait pas la guerre et il pleuvait à satiété. Elle se plongea encore plus profondément dans son fauteuil défoncé et observa les persiennes fermées du nouveau locataire. Maintenant, elle regrettait d'avoir passé ses nerfs sur le lierre et de lui avoir filé une correction après avoir aperçu le nouveau venu. Pour sûr, il allait dire à la vieille que son aide n'avait pas le contrôle de soi et lui raconterait de mauvaises choses sur elle. Elle vida sa tasse et la posa par terre. Elle étendit les bras sur ceux du fauteuil, repoussa la tête en arrière et ferma les yeux. Le froid du matin glissa sur sa nuque et sur les racines des cheveux qu'elle voulait teindre. Du bout du monde, un jasmin lui envoya un parfum subtil. Elle remercia Dieu, en roumain d'abord, parce qu'il le méritait, puis en hébreu, parce qu'il aimait qu'on lui dise « Toda ». Pendant une bonne heure, elle abandonna son cou au vent et pensa que c'était un excellent matin pour faire des crêpes au fromage. Mais Madame Hanna ne permettait pas de cuisiner le Shabbat. L'électricité, d'accord, La télévision, permis. La sortie en voiture, pas de problème. Mais cuisiner, ça, non. La patronne prétendait que l'odeur de l'ail et de la friture montait jusqu'au ciel et qu'il valait mieux éviter les provocations. Une escadrille d'oiseaux piqua sur les grues, remonta à nouveau et s'enfuit vers le nord. Johanna les regarda jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Peut-être venaient-ils de Roumanie ou de Hongrie, qui sait. Ils recherchaient une température plus chaude. Cela, ils ne connaissent ni octobre ni novembre. Un beau jour, leur thermostat s'allume, ils plient les pattes tous ensemble et ils s'envolent sans valise, sans brosse à dents ni médicaments, sans visa ni passeport. Dans le ciel, il n'y a pas de contrôle et personne ne vous demande vos papiers. Si les hommes pouvaient faire circuler leurs économies comme ça, sans documents et sans argent, s'ils pouvaient aller et venir gratis, alors Angela et les enfants viendraient la voir et elle leur achèterait des vêtements au bazar Strauss. Ensuite, on irait déjeuner au restaurant roumain, rue Jaffa, puis on se rendrait en vieille ville. Angela noterait tout ce dont elle avait besoin sur un petit bout de papier qu'elle plierait et glisserait entre les pierres du mur des Lamentations. Mais Angela n'était pas un oiseau, elle n'avait de thermostat que celui de son chauffe-eau. Johanna ferma les yeux. Le ciel descendit sur elle, chaud et doux. Qu'elle plierait et glisserait entre les pierres du mur occidental. Mais Angela n'était pas un oiseau, elle n'avait de thermostat que celui de son chauffe-eau. Johanna ferma les yeux. Le ciel descendit sur elle, chaud et doux. Elle se blottit dans le bleu clair et tendre jusqu'à ce qu'une main lui secoua l'épaule et l'éveilla. La gamine était penchée sur elle et la contemplait.
« Je croyais que tu étais morte. Je veux des cornflakes avec du lait. »
« Tu dire d'abord bonjour, Danouchka. Shabbat shalom. » Le duvet céleste se dissipa. Elle se dressa, extirpa ses bras du fauteuil, ramassa ses jambes sous elle et se leva. « Il faut l'éducation, Danouchka. Beaucoup d'éducation. » Elle remarqua que les feuilles du prunier étaient tombées pendant son sommeil. Elle ne savait pas combien de temps elle avait dormi. Le nouveau locataire les regardait de sa fenêtre et pensait « Ces deux-là, ce sont les maillons sensibles de la chaîne de cette maison. La petite est insolente et délaissée, et la vieille, introvertie et soupçonneuse. Avec elle, il va falloir faire preuve de pondération et de prudence. » Il boutonna sa chemise, arrangea son col et sortit dans la cour. Il lança un joyeux « Bonjour !» Johanna lui répondit d'une voix sans chaleur et sans vie. La petite ne dit rien. Elle plissait le front et le regardait.
« Qu'est-ce que tu veux ? »
demanda-t-elle en tirant son pyjama d'entre ses fesses.
« T'as des lunettes de bébé et un nom de vieux. Alors, qu'est-ce que t'es ? »
« Pourquoi dire comme ça ? Pas joli parler comme ça à monsieur gros comme maman. Viens, je vais te donner cornflakes. » Johanna la tira de force par la main et elle se laissa traîner derrière elle. Se retournant, elle dit encore
« T'es comme un cloporte dans un cerceau. Y a que des filles ici. »
Il les regarda partir et remarqua le pyjama trop court à l'ourlet décousu et les chevilles fines. S'il était son père, il lui achèterait un pyjama à sa taille. Quoi qu'il en soit, il commencerait par la fillette la colonisation de cette famille. Première étape, s'attacher les bonnes grâces de l'enfant, et celle-ci lui ouvrirait la route du cœur des autres. Il rentra chez lui et ressortit presque aussitôt, muni d'un jeu de dames et d'un sachet de friandises. Il s'aperçut vite qu'il avait visé juste. La petite revint après avoir terminé ses cornflakes, s'être disputée avec Johanna et avoir gagné. Elle ne s'était pas habillée, ni débarbouillée, ni coiffée. Des flocons d'avoine jaune dégoulinaient encore de sa bouche sur son pyjama. Le ventre replé avait tout avalé d'un coup et faisait entendre des gargouillis sonores.
« Ouf ! Je fais des rots !»«
Tu veux de l'eau ? » demanda-t-il.
« Non ! Des friandises !» Il lui tendit le sachet. Johanna pensa. « Ce n'est pas bien, ce l'homme il fait !»
Elle s'accouda à la fenêtre de la cuisine et se jura de ne pas en bouger, même au prix d'enflures dans les plantes des pieds. Elle ne quitterait pas des yeux cette catastrophe que Madame Hanna avait fait entrer dans la maison. Elle ne lui avait pas même demandé sa carte d'identité, son passeport, rien. Directement de la rue à la cour. Même un chat, on ne le ferait pas entrer comme ça. Elle appela.
« Madame Hanna, venez voir Danouchka. Personne voit quoi l'homme il fait les enfants. »
La vieille mit le nez à la fenêtre et contempla avec bienveillance le spectacle qu'offraient le locataire et la gamine. « C'est un homme bon et cultivé, Johanna. C'est un poète. » Johanna tint bon.
« Mais il faut d'abord voir qui et quoi. »
Elle se disait que si sa Nicolette se penchait comme ça sur un jeu de dames, elle la tirerait de là par les cheveux et déclarerait au poète
« Vous, occupez-vous des gens de votre âge !»
Cet homme-là n'annonçait rien de bon, mais ce n'était pas le moment d'en dire du mal. Madame Hanna s'était bien habillée, élégante pour le Shabbat. Elle portait ses perles blanches et s'était mis du rouge à lèvres.
Pas maintenant faire mauvaise humeur et faire problème.
La vieille femme enveloppa son empire du regard, ouvrit la porte et entra dans la cour.
Zut, mémé, pourquoi t'es venue ?
Grogna la petite en frappant la poussière de son pied nu. Hanna Yona n'écoutait jamais ce qu'elle ne voulait pas entendre. Elle leva une main pâle au ciel qui dominait la cour et déclara au nouveau locataire.
Vous voyez les grues, là? Même s'ils leur poussent des dents et des griffes, elles ne me feront pas bouger d'ici. Mon mari, Yehuda, a amassé sou après sou pour acheter cette maison, et il en a payé de sa vie. 2 heures après la signature du contrat, il est tombé raide mort. Vous n'avez pas une pierre dans cette cour qui ne respire de son souffle à lui. Pas une. Alors, dites, quelle fortune me ferait sortir d'ici? On peut vendre de la terre, mais pas de l'âme. »
Le nouveau locataire ne répondit pas et ne demanda rien. Il avait chaud. Il ouvrit un bouton de sa chemise et se demandait si, en enlevant l'âme du mari avec des pincettes, on rendrait aux pierres leur qualité d'origine et au terrain une valeur marchande. La fillette mordilla le col de son pyjama, frappa à nouveau du pied, ramassa une pierre et la jeta sur un tronc d'arbre.
« Vous avez vu? Il y a là ma pépé qui a cogné sur l'arbre !»
La vieille hocha la tête en signe de deuil. Elle reprit contenance et ne permit pas aux symptômes de la mauvaise éducation d'abattre sa bonne humeur. Elle n'avait jamais été si près d'atteindre le bonheur. Cette semaine, elle avait pris 1 kilo de plus. Son cou était encore tout plissé comme celui d'une dinde. Mais au rythme 1 kilo par semaine, d'ici à décembre, elle aurait déjà un cou de dindon farci. Les jambes aussi, à part les veines saillantes, n'avaient pas l'air si mal que ça. Ce soir-là, elle irait là-bas en souliers plats. Elle mettrait les chaussures élégantes dans un sachet de plastique et elle changerait en entrant. Grâce à Dieu, le samedi soir, elle était privée de l'ombre menaçante de Johanna. Yardena sortait s'amuser et la roumaine restait avec la petite. Hanna Yona regarda autour d'elle et se sentit satisfaite. Pour le moment, la vie était sous son contrôle. Un poète, c'était la réponse qu'il fallait aux grues, aux entrepreneurs et aux agents fonciers qui se pressaient à son nuit. D'autant plus que les loups serviers pensaient qu'il n'y avait pas d'homme dans la maison et que le gibier serait facile à prendre. Maintenant, il y avait un homme et l'équilibre des forces était établi. La vie ne pourrait aller qu'en s'améliorant. Dommage seulement que la fillette ait témoigné tellement d'amertume sans s'apercevoir du changement positif qui s'opérait.
« Va t'habiller, Dan. Dans 1 seconde, les oiseaux vont venir picorer sur ton pyjama. »
Elle toucha tendrement le vêtement de l'enfant.
Qu'il s'amène !
La fillette ramassa une pierre. Elle allait la jeter sur le prunier, mais elle se ravisa. Puis, abandonnant ses savates dans le sable, elle rentra à la maison pieds nus. Pauvre enfant, qui grandit comme une sauvage. Il faut faire quelque chose pour elle. La grand-mère suivit du regard sa petite fille. Son cœur la tourmenta un instant, puis revint à la normale. Le soleil illuminait maintenant le nouveau locataire. Hannah Yona saisit l'occasion que lui offrait la réverbération naturelle, scruta tous les pores du visage et se demanda « Quel âge peut-il bien avoir ? Au moins 40 ans ? 45 ? Un homme de cet âge-là doit déjà connaître un peu la vie. Vraiment, il n'a pas la corpulence d'un athlète. Il a des épaules de pauvre type, un peu de ventre et de menton, et des lunettes de bébé. Que faire ? Tout le monde n'est pas Monsieur Univers. Mais il a l'air honnête et modeste. Il n'a pas discuté sur le montant de la location. Il n'a pas exigé de réparer la fenêtre de la chambre à coucher. Et, à part ça, c'est un poète. Les poètes n'ont besoin ni de chansons ni d'épaules, et ils ont bien le droit d'avoir un peu de double menton. Voulez-vous faire une partie de dame, Madame Yona ? Il se pencha sur le damier et disposa les pions. Elle esquissa un sourire coupable. Les rides qui couronnaient ses lèvres se mirent en rang comme les dents d'un peigne fin. Quand lui avait-on jamais proposé de jouer aux dames dans le passé ? Et comment qu'elle voulait ? Mais avant de commencer la partie, elle avait encore beaucoup de choses très importantes à dire. « Vous savez, c'est très bien ça, qu'on ait un homme à la maison. Ces derniers temps, ces sacripants amènent leurs grues jusqu'à ma clôture et ils font trembler la terre comme s'il n'y avait pas de police ici. » Le nouveau locataire sourit. Du coin de l'œil, il voyait la pancarte « Misha Brouchi et fils » suspendue au sommet de l'une des grues et prenant un large rectangle de ciel pour elle toute seule. Hannah Yona égrena ses perles comme on fait d'un chapelet. Elle pensait que le kiddouche prononcé la veille attirerait sur son foyer le souffle de la générosité céleste. En l'honneur de ce souffle bienfaisant, elle allait s'offrir ce soir-là un double bock et peut-être même un whisky. Elle leva les yeux au firmament comme pour promettre un kiddouche toutes les semaines et elle aperçut la petite qui sortait de la cuisine avec des guirlandes bleues sur sa robe neuve. Un bandeau de même couleur lui serrait les cheveux. Son visage était tout propre et elle portait des souliers blancs aux pieds en l'honneur du Shabbat. De la fenêtre de la cuisine, les yeux de Johanna suivaient son sillage bleuté. La gamine semblait congelée dans sa robe et embaumée comme une momie. Le ruban dans les cheveux ressemblait à une affiche à vendre et son visage n'exprimait ni la joie ni le chagrin. L'étranger contint son rire et devint sérieux. La vieille se frappa les mains et s'écria d'un ton enjoué. « Quelle robe ! C'est de la haute couture, Danale ! Ce que tu es belle, enfin ! L'eusses-tu cru ? Dan en robe de Shabbat. Le bleu qu'on voit danser au long des golfes clairs. » Elle chantonnait à haute voix et semblait la plus heureuse des femmes. À vrai dire, Danale avait plutôt l'air d'un poulet congelé qui sortait du frigo, mais elle s'habituerait. Les enfants, ça prend vite l'habitude. La fillette s'avançait vers elle, les poings serrés et la bouche close. Elle marchait comme une poupée mécanique sous les yeux de la grand-mère, ceux de Johanna sur sa nuque et ceux du nouveau locataire sur son damier. Il remarqua ses membres durs et pensa à Motti, le fils de sa sœur Ziva. Il ouvrit un nouveau bouton de sa chemise et fit pivoter sa chaise de façon à tourner le dos à Misha Brouchi et ses fils. Dieu sait combien Ziva doit mettre à chaque fois pour la prothèse de Motti, ses souliers orthopédiques, pour sa chaise roulante électrique et pour l'aide étrangère. Certains diront qu'il avait vendu son âme au diable. Que bien leur fasse! Dieu sait qu'il n'a rien vendu et que le diable ne lui a rien acheté. N'était-ce la sainteté du Shabbat, il ouvrirait sa chemise toute grande. Il ne voulait pas voir la petite qui détestait sa robe. Ses yeux ne quittaient pas le jeu de dame. Il ne voulait penser ni à Motti, ni à Ziva, ni à Mich, à Brouche, ni au diable. Il n'avait qu'une idée, se mettre au lit et dormir. Simone apparut à sa fenêtre, sa première tasse de café du matin à la main. Elle aperçut l'enfant figé dans sa robe éclatante, la grand-mère toute frétillante et le nouveau locataire le nez sur son damier. « Même si c'est un imposteur, il a bon cœur, » se dit-elle. Elle remarqua près d'eux le prunier qui avait perdu toutes ses feuilles en une nuit. La poussière qui tombait des grues gênait les arbres et les terrassait plus tôt que prévu. Mais elle faisait encore d'autres victimes. Elle s'insinuait dans les vieux poumons de sa mère, lui bouchait les artères, lui figeait le cerveau et faisait d'elle une imbécile heureuse. Seule, une pluie abondante pouvait rendre la clarté à l'air et aux hommes. Mais le ciel était vide, de nuages comme de vent. Elle contempla l'enfant, fossilisé entre l'étranger et la vieille femme, et résolue à ne pas coopérer avec le tissu d'azur dont on l'avait couverte. Elle ne leur servirait pas le filet de satisfaction escompté. Si on ne l'accepte pas sauvage et échevelée, on la trouvera figée et sèche. Ils allaient la supplier de bouger, de se faire belle, de se mouvoir dans sa belle robe neuve. Mais elle, elle resterait là, comme une momie, sans broncher. « Elle est tout en fer, cette gosse-là » pensa-t-elle. « Relevez-lui seulement la tête et elle brandira deux doigts en V, en signe de victoire. » Elle posa sa tasse de café et se préparait à descendre dans la cour pour sauver la petite du rôle de mannequin involontaire qu'on lui avait attribué. Mais Johanna, qui savait lire sous les vêtements de la fillette, la devança. Prenant une mine déconfite, elle s'approcha du trio des joueurs de dames et demanda « Tu n'aimes pas la robe là, Danouchka ? Pas grave, viens à la maison, je te donnerai quoi tu veux. » L'enfant lui tourna le dos, lui permettant ainsi de la délivrer du châtiment qu'impliquait le port de la robe. Dès que les dents de la fermeture eurent relâché leur emprise, le souffle de vie se mit à couler à nouveau dans ses veines. Elle se dégagea des mains de Johanna et s'enfuit vers la maison, les bras libres et le torse nu. La robe tombée à terre s'entortillait autour de ses chevilles. Elle secoua les jambes, s'extirpa du vêtement et l'envoya rouler au loin d'un coup de pied. Elle arracha le ruban de ses cheveux et entra en slip dans la maison. De son appartement, Simone entendit la porte de la cuisine qui se refermait, s'ouvrait et se refermait dans un claquement. Quelle chance que Yardène, à la mère qui avait conçu l'affaire de la robe, n'assista pas à l'avatar. Elle dormait encore. La veille, elle avait atterri pour le quidouche avec la robe bien pliée dans un sachet de grand magasin et l'avait présentée triomphalement au public. Le bleu criant du vêtement avait provoqué des clameurs d'admiration chez le nouveau locataire, chez la vieille et chez Yardena elle-même. Johanna avait déclaré « C'est une robe de princesse !» Orna s'était contentée d'un « Oh oh !» qui semblait annoncer un avenir ni rose ni bleu. Quant à la gamine, elle n'avait rien dit et les avait fait attendre en vain une appréciation de sa part. Elle n'avait pas même tendu un doigt vers l'objet qui scintillait entre la bouteille de vin et les pains de Shabbat. Une fois le vêtement disparu dans le sachet, elle avait conclu. « C'est comme dans Cendrillon !» Tout en tambourinant sur la bouteille avec sa fourchette, comme pour signaler la fin d'un acte au théâtre. Debout devant sa fenêtre, Simone avala une gorgée de café. Sa mère avait l'air heureuse et semblait refuser au petit drame de la vie le droit de flétrir son bonheur. Quoi donc avait ainsi transformé la vieille acariâtre et amère en une rose blanche de Corfou? Si l'hilarité n'annonçait souvent rien de bon chez les vieux, pourquoi chercher cependant des raisons au désavantage de l'intéressé? Pourquoi considérer la tristesse comme normale et essayer de justifier le contentement? Nul n'avait le devoir d'expliquer ce regain de gaieté, ni de trouver des causes aux escapades nocturnes où elle rencontrait Dieu sait qui. Yardène était d'avis de la faire suivre et d'empêcher qu'on lui fasse signer un testament ou une procuration autorisant le changement de propriété de biens fonciers. Orna et elle, Simone, s'y opposaient catégoriquement. À 77 ans, elle avait le droit de s'offrir des aventures, de prodiguer des entorses à son curriculum vitae et d'accéder au bonheur. Après plus de 7 dizaines d'années pleines d'amertume, de rancœur et de colère, elle en avait sa claque de la mélancolie. Elle avait compris que la vie se réduisait à une ombre fugitive, dépourvue de toute signification, et qu'elle-même arrivait maintenant au bout du rouleau. Pour autant qu'on pouvait en juger, elle allait terminer en beauté et recevoir les ovations du public. En attendant, la chance lui souriait. Dieu refoulait le cours des années en arrière et lui laissait prendre du poids, bien qu'elle n'ait jamais rien fait pour lui. La Camarde avait essuyé poliment ses semelles sur le paillasson et s'était retirée dans son bureau. Pourquoi ? Simone n'en savait rien. Si elle comprenait les mécanismes biologiques, elle n'avait par contre aucune connaissance des processus qui animaient la roulette de la destinée. Depuis qu'elle gagnait sa vie sur le dos des 10 dernières années de ses concitoyens, elle savait apprécier la valeur d'un pouls régulier, la clarté d'un esprit et les côtes de la bourse de l'existence. Elle connaissait le prix de la chute vers la ligne rouge et la dégradation. Demain, il ferait jour sur une nouvelle semaine. Elle allait encore véhiculer le chariot au dossier d'un lit à l'autre. Elle devrait sculpter, palper et écouter. Par la fenêtre de Fortune, elle regarderait la route verte qui montait de la vallée. Puis son regard retomberait sur la malade et retrouverait le chemin de la dernière demeure. Elle veillerait à équilibrer les matières liquides, à équilibrer le sucre, à équilibrer le fonctionnement des reins, l'électrolyte, l'activité du foie, équilibrer, toujours équilibrer. Elle utiliserait tout l'arsenal médical et ne laisserait rien de côté, bien que la partie soit perdue d'avance. Michael avait raison, elle n'était pas faite pour l'oncologie. Dans son nouveau département, au moins, les gens mouraient selon le mode d'emploi. Elle se souvint du texto « Je passerai vous voir ». Il n'avait pas donné de date ni d'heure. Cela n'avait pas grande importance car, de toute façon, il ne la trouverait pas. Il arriverait à l'onco pour faire une greffe de peau ou recoudre une joue. Les internes lui rendraient les honneurs dus aux spécialistes. Et s'il n'était pas encore imbu de sa personne, il sourirait modestement et se pencherait sur les lymphes malades. Elle ne tâcherait pas de le trouver, le passé était bien fini. Ils avaient vécu 3 ans ensemble et ils pensaient s'aimer éternellement. Puis ils avaient lutté contre l'inertie de la routine et contre le sentiment que rien ne dure à jamais. Finalement, ils avaient décidé de se séparer. Aucun drame n'éclata. Ils agissaient avec sérieux, sang-froid et peu d'enthousiasme. Ils démontèrent le mécanisme avant de se taper mutuellement sur les nerfs. Elle retourna chez sa mère et reçut l'appartement du sud avec vue sur la cour et sur la rue. La vieille avait constaté « Il n'y a que dans notre famille que l'oisillon revienne au nid au lieu de s'accoler à un autre volatile pour fonder un nouveau foyer. » Hanne avait fait installer 3 compteurs d'eau et d'électricité séparés et divisé les charges municipales en 3 et s'était oubliée dans le partage. Ses 3 filles travaillaient et gagnaient bien leur vie, alors qu'elle-même devait se contenter de la maigre retraite de Yehuda, d'un vieux fonds de prévoyance et de la pension de la sécu. Les filles avaient estimé que c'était fair et neuf et avaient accepté toutes les conditions. Il faisait chaud. Les rayons obliques du soleil se brisaient sur les feuillages, sur les pruniers et sur les pierres de la cour. Seule la chaleur empêchait Yardena de dormir. Elle secoua sa couverture d'été et se mit au balcon dans son léger baby-doll et sans sa cigarette. Le Shabbat, elle ne le fumait pas en public, par respect pour feu son père. La vieille et l'étranger avaient quitté leur chaise. Il n'y avait plus personne dans la cour. Seule, la fillette musée du côté du bougainvillier au bout du lopin. Elle tentait de se faire un chemin entre les branchages et cherchait évidemment quelque chose. Yardena sortit de ses gonds à la vue du pantalon décoloré et trop petit. C'était encore bon quand elle avait 5 ans, pas plus. Quand elle se penchait, à présent, elle laissait voir les blanches tranches de son derrière. Elle n'avait pas un brin de sens de l'esthétique. Les gamines de son âge lisaient des romans de princesses, s'observaient dans la glace et comptaient une à une leurs qualités. Et sa fille, à elle, elle ne lisait jamais rien, se faisait des grimaces dans le miroir et laissait des empreintes de doigts gluantes sur le verre poli. L'institutrice avait proposé de s'adresser à la consultante pédagogique ou à un psychologue. Yardena avait refusé, ne croyant ni à l'un ni à l'autre. Pour elle, cette clique-là pouvait moisir à l'université et traîner des cervelles conservées dans le formol. Elle faisait confiance au temps, à l'intuition et au bon sens. De son balcon, elle cria à l'enfant « Hé, Dana, et la robe neuve alors ?» Ses cris chassèrent un pauvre moineau qui picorait sur le balcon.
« Je ne la veux pas !»
répliqua la fillette penchée sur son buisson. Elle ne s'était pas retournée vers sa mère. Yardena bouillait de rage.
« Achète, mets-toi en quatre, dépense, et tout ça pour des prunes !»
Elle descendit comme un ouragan chez sa mère, empoigna le sachet du grand magasin qui contenait la robe bleue et se précipita dans la cour dans son bébé doll transparent. Elle allait, échevelée, pieds nus et la bouche encore pleine de l'amertume de la nuit. Elle courut au plan décharné des épices et s'arrêta près du vieil épouvantail au chômage qui vacillait tout desséché. Elle sortit la robe de son emballage et en affubla le mannequin. Puis elle lui suspendit l'étiquette du prix au cou. Elle essaya de le redresser, mais il retomba de côté. Elle le plaqua contre l'arbre d'une taloche tout en maugréant.
« Espèce d'âne bâtée ! Va chercher un épouvantail habillé à 200 shekels !»
L'enfant cessa ses occupations, regarda sa mère sans bouger du buisson et se frotta la joue comme si la gifle lui était destinée. Le tableau de l'épouvantail vêtu de la robe neuve l'amusa et elle se retourna vers le buisson pour mieux rire.
« Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Viens ici, Dana !»
La petite haussa les épaules mais ne bougea pas.
« Je te dis de venir ici !»
Yardena s'empara du chapeau de l'épouvantail, le frappa sur sa cuisse, le froissa de toutes ses forces et le reposa au sommet de son manche. L'enfant riait maintenant à gorge déployée et au nez de sa mère, tant l'amusait la vue du chauve gardien de bois vêtu de sa nouvelle robe.
« Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Tu n'as pas meilleure mine avec ton pantalon. On te voit tout le derrière. »
Le sang affluait aux tempes de Yardena. 200 shekels foutus aux ordures. Ce n'était pas tellement pour l'argent comme pour cette gosse en haillons trop court qui se moquait d'elle impudemment. Le rire passe encore, mais cette allure, quel mauvais présage! Elle tenait la moitié de son code génétique d'un inconnu et la lutte contre cette hérédité constituait une bataille perdue d'avance. Elle serra les poings, compta jusqu'à 10, puis jusqu'à 20 et attendit que ça passe. Après tout, la petite n'y était pour rien. Elle n'avait rien demandé. Elle avait horreur des robes. Yardena elle-même n'avait jamais porté quelque chose uniquement pour satisfaire le contributeur. Un jour, Eliko, le grand type du service de transport de l'hôtel qui était fou d'elle, lui avait acheté une tunique rouge. Elle avait rendu le colis en disant « Pardon, mais ce n'est pas mon genre ». Il en avait apporté 2 autres qui avaient subi le même sort. « T'es vachement dure !» avait-il dit avant de renvoyer le tout à la boutique. Ses mains se relâchèrent enfin et elle prononça
« Allez, Dana, qu'est-ce qu'il y a? Viens !»
La fillette comprit que le danger était passé et elle s'approcha de sa mère et de l'épouvantail tout en réprimant une violente envie d'uriner. Yardena pensait « Malgré tous ses défauts et sa lourdeur, elle est solide, cette gosse. Allez, qu'elle rit, c'est pas tous les jours qu'on rigole ici. » Elle ne put se rappeler quand la petite avait perdu ses 2 dents de devant, ni si l'on avait mis quelque chose sous l'oreiller. Une bande de papillons se jeta sur l'épouvantail, attirée par son bleu costume comme par le firmament. En se posant dessus, il se sentait tout nu. La petite suivit les papillons du regard. Yardena pouvait poser la patte sur son épaule en toute sécurité, mais elle s'abstint de le faire. Elle ne pratiquait guère ce genre de concession. Elle réfléchissait. Hier, par exemple, j'ai acheté cette robe idiote et à quoi bon ? Le seul dont cet acte ait changé l'existence, c'est l'épouvantail qui s'en fichait comme de l'an 40. Et voilà ce macabée qui s'endimanche et ressuscite. À ce rythme, il ne faudrait pas s'étonner si les buissons morts font des pousses nouvelles. Yarden a laissé pendre ses mains, vides d'action et de désir, incapable de faire les 20 centimètres qui les séparaient de l'enfant et de la toucher. Elle faisait de son mieux avec le peu de sentiments maternels que lui avait donné la nature. Si elle en avait reçu davantage, elle s'en tirerait un peu mieux. Non, elle n'avait pas de remords. Elle n'avait ni stimulé ni même prévu la grossesse et elle avait laissé faire la nature. L'avenir de Dan ne promettait guère et cependant, c'était là le moindre mal entre être et ne pas être. À chaque seconde, une femme s'aperçoit qu'elle est enceinte et bénit le ciel ou maudit le hasard. À chaque instant, quelqu'un naît sous le coup de la bénédiction ou de la malédiction et se trouve livré à sa destinée. Dan n'avait reçu ni malédiction pendant la grossesse, ni bénédiction à sa naissance. C'est un destin ténébreux qui l'accueillit. Yarden a pris des pilules pour assécher son lait et redevint vite elle-même. La nature l'aida à faire disparaître l'épreuve, l'abdomen se contracta rapidement et son ventre redevint plat comme par le passé. Elle ne souffrit guère de voir un être nouveau dépendre d'elle. Elle avait bon dos et ne manquait pas de souplesse. La situation nouvelle s'instaura donc sur la base de données objectives qu'on ne pouvait ni corroborer ni réfuter. La gamine reçut son premier diminutif, Danouchka, lorsque Johanna vint se joindre à la famille. Et depuis 7 ans, Yardena était tout entière à son travail et à ses amourettes qui lançaient des étincelles au ciel et s'éteignaient en cachette. Ces derniers temps, son aventure avec Sachi, le propriétaire du réseau, semblait solide. Il lui avait même proposé qu'ils fassent un enfant ensemble. Elle avait éclaté de rire. « J'ai déjà un enfant !» Mais c'était comme si elle n'en avait pas. Alors, devait-elle en avoir un deuxième de la même façon ? Ah, si elle pouvait crier à sa fille « Va vite mettre des sandales, nous allons en promenade au parc !» Mais elle n'avait pas les nerfs pour une promenade au parc. D'ailleurs, la petite passerait son temps à bavarder et à se regarder dans la glace des voitures en stationnement. Et toutes les 5 minutes, Yarden demanderait « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Dan ?» La petite se mettrait en boule en râlant.
« Ouais, tu m'écoutes pas !»
Les boucles de Dan brillaient au soleil. Une feuille s'y posa. Son petit ventre sortait du maillot trop court. Yardena pensa. « Elle manque complètement de charme, à part la grâce infantile naturelle qui disparaîtra d'ici 2 ou 3 ans. » De quoi faire un complexe ? Elle ne parvenait pas à transformer en sentiment la ligne qui reliait ses yeux au papillon. Elle ne pouvait atteindre l'essence fugitive et solennelle qui soutenait cette ligne. L'ourlet de son baby doll frôlait la main de l'enfant. Cette dernière fournissait bien l'occasion du contact, mais ne bougeait pas, son épaule nue tout près de sa mère. Malgré son air gauche, ses bras demeuraient fins et ses mains semblaient empreintes de toute la vivacité de l'enfance. Yardena voulait poser un baiser sur cette petite main, mais cela ne venait pas. La distance était infranchissable. Elle était capable de véhiculer une armada de cuisiniers et de serveurs d'un hôtel à l'autre et de diriger la proue des navires de croisière vers les ports du pays pour décharger leur cargaison humaine dans le lobby de son hôtel. Elle voulait maintenant donner un baiser sur la joue de son enfant et elle n'y arrivait pas. « Je suis encore plus tarée que je ne pensais, » se dit-elle. Elle avança le pied pour dire « Va mettre tes sandales, Dan, on va au parc. » Mais au même moment, une sourde galopade se fit entendre du bougainvillier, accompagnée d'un bruit de branches cassées.
« Le voilà !»
s'écria la fillette en sautant vers le buisson.
« Je l'ai vu ! Parole !»
Le cri avait fait sortir un lièvre tout paniqué. Elle se baissa, étendit les bras et lui barra le passage. Vivement, elle serra sa proie entre ses chevilles, prit l'animal dans ses bras et le pressa contre sa poitrine. La pauvre bête tremblait de tous ses membres. Yardena remercia le ciel qui lui avait envoyé ce sauveur inattendu qui lui épargnait à la fois le baiser et le parc. Elle voulait rire, mais ses lèvres restèrent closes. Elle dut même se contenir pour ne pas éclater en sanglots. Le ciel se couvrit d'un nébuleux plumage et le soleil perdit tout son éclat. Cette journée aurait pu s'avérer merveilleuse, mais on en avait déjà perdu le contrôle. Elle était toute vêtue de la robe bleue qui cachait aussi le Shabbat. Une demi-journée avait passé et Yarden était encore un baby doll transparent, décoiffé et la bouche malodorante. Elle n'avait pas de montre, mais les ombres courtes indiquaient déjà l'approche de midi.
« Qu'est-ce que tu as, crétin ? »
proféra-t-elle en talochant à nouveau l'épouvantail. Une foule effarouchée de petits insectes et autres créatures de rien du tout s'éleva comme une nuée et se mit à tourbillonner autour du satin bleu. Yarden agita le bras pour les chasser. Cette robe manquait de goût et d'odeur et ses bestioles stupides se laissaient prendre par sa couleur étincelante. Si les gérants du magasin avaient su combien de clients leur apporterait cette robe bleue, ils ne l'auraient pas proposée à prix réduit. Elle s'adressa à l'enfant.
« Donne-lui de l'eau, qu'il ne te claque pas entre les pattes. Amène-le au robinet. »
Yarden avait la bouche sèche. Elle n'avait encore rien pris ce matin. Elle voulut remonter chez elle. Ce lièvre dans sa caisse constituerait l'événement du jour. La fillette ne s'occupait plus que de lui, elle avait oublié sa mère et tout le reste.
« Je monte !» déclara-t-elle en grimpant les marches deux à deux, comme si on la poursuivait.
Le nouveau locataire pouvait maintenant sortir de derrière son rideau et se montrer à sa fenêtre. Il n'avait rien perdu de la scène, mais craignait de se faire traiter de voyou à l'évocation des cambrures de Yarden sous le bébé doll transparent.
« Il faudrait une cage, tu ne pourras pas le garder longtemps comme ça, » annonça-t-il de sa fenêtre.
La gamine pressait l'animal contre sa poitrine et se balançait d'un pied sur l'autre. Elle n'avait pas encore réagi qu'il arrivait, une caisse en carton à la main, qu'il déposa dans le sable où elle installa son protégé épouvanté. Johann, elle aussi, avait tout vu. Elle apporta de la laitue et une petite jatte pleine d'eau. Elle demeura là un moment, puis se retira. La petite dansait toujours d'un pied sur l'autre.
« Garde-le-moi, je vais faire pipi !»
Le nouveau venu se mit en faction auprès du lièvre. Décidément, ce Shabbat le faisait progresser à grands pas. La maison s'ouvrait désormais toute grande devant lui. Petit à petit, il perçait à jour les points forts et les côtés faibles des habitantes du lieu. Il observa le lièvre blotti dans un coin de la caisse. Il n'avait pas fait un pas vers la laitue et la jatte d'eau. L'homme décida de le laisser tranquille et scruta les alentours lamentables. Un terrain immense à l'abandon, du sable, du gravier, des pots ébréchés, des ornières où avaient dû pousser des fleurs et un épouvantail bon pour l'asile. Des pruniers maigrichons, un bougainvillier poussiéreux, des vestiges pitoyables de la végétation qui enrichissait autrefois ce coin de paradis. Et maintenant tout semblait mort. L'univers où errait aujourd'hui le regard hagard de toutes ces femmes pouvait devenir un charmant hôtel de 60 chambres pour deux, avec tout le confort et l'équipement voulu pour 120 invités. La petite revenait.
« T'as bien gardé ? C'est un garçon ou une fille ?»
Le nouveau locataire éclata de rire.
« Un garçon. Avec moi, ça fait deux dans la famille maintenant. Toi, t'es pas dans la famille !»
L'homme ôta ses lunettes et les essuya à la robe accrochée à l'épouvantail. Armé d'un coin du vêtement, il frottait et polissait les lentilles. La fillette lui arracha le tissu des mains.
« C'est pas un chiffon. Ma mère a mis 200 shekels dessus. Espèce d'idiot !» Elle a claqué 200 shekels. Allez, remets tes lunettes. J'aime pas tes cocards. »
Elle s'apprêtait à projeter un crachat, mais se ravisa et avala la salive. Enfin, elle se pencha sur le carton.
« Contiens-toi, Rafi. Mieux vaut réfléchir qu'agir. Profite des perles qui sortent de la bouche de cet enfant et ne prête pas attention aux heures supplémentaires de ses glandes salivaires. »
Il remit ses lunettes sur son nez et se demanda s'il fallait se réconcilier avec elle. Il hésitait entre prendre le lièvre épouvanté comme sujet de conversation ou laisser la gamine à ses bouderies. S'il était son père, il lui aurait refilé une gifle. Elle s'agenouilla devant la caisse et il se pencha sur elle. Mais en voyant le duvet épars qui couvrait sa nuque, il pensa. « Non, non, je ne l'aurais pas giflé. Je n'en serais pas capable. » Il voulait s'en aller, mais il restait immobile. Le vent ébouriffait les cheveux de la petite, gonflait la robe bleue et emportait les feuilles de prunier. L'arrêt clair, au milieu du cuir chevelu, brillait au soleil et les boucles pendaient à gauche et à droite. Il aurait voulu lui passer la main dans les cheveux, mais il craignit que les yeux de la roumaine à la fenêtre ne lui prêtassent de mauvaises intentions. « Allez, porte-toi bien » fit-il en retournant à son logement. Ce soir-là, il se couvrit d'une casquette noire qui allait bien avec son apparence de petit fonctionnaire et lui donnait l'allure d'un saltimbanque espiègle. Il allait et venait dans la rue, observant la façade de la maison. Le ciel était couvert d'étoiles, mais sa beauté n'égalait en rien celle du firmament de sa ville natale. Le ciel exige de la propreté, mais ici, l'air contient des particules, des crachats, de la laine et de la sueur. Un nuage trouble plane là, entre ciel et terre. La lumière des étoiles arrive ici comme un produit de récupération. Que Dieu lui pardonne, il allait ajouter le crime à l'opprobre. S'il réussissait dans sa mission, cette nuée redoublerait de densité. Un hôtel de 60 chambres serait bientôt bâti sur ce bout de terrain. Plus de 100 personnes fouleraient du pied le tapis de l'entrée, fumeraient, tousseraient, cracheraient et ruisselleraient de sueur. Mais il fallait bien vivre de quelque chose. Chez l'épicier, on ne lui donnerait pas une miette en échange de la lueur des étoiles. Montrez-lui du doigt un seul juste qui résisterait à la tentation de ramasser le gros lot d'un coup au lieu de trimer comme une bête pendant 5 ans. Mais pour gagner à la loterie, il devait mettre à contribution tout son charme. Il faudrait déployer des prodiges d'imagination pour les convaincre que la vente de cette maison serait la meilleure affaire de leur vie. Il s'adossa à une vitrine et ses pensées se tournèrent vers les filles. Avant de les rencontrer, il avait des idées de célibataire en tête. Il avait développé un faible espoir que quelque chose arriverait entre lui et l'une des trois. Mais maintenant, il se résignait. « Laisse tomber, Rafi. Leur pointure est bien trop grande pour toi. » Quant à la mère, il ne savait si la vieille dame jouait son rôle à la perfection ou bien si c'était une ruine au cerveau fêlé par l'âge. Il traversa la rue, s'appuya à la grille d'une boutique de vêtements et poursuivit son observation. Il rabattit sa casquette sur ses yeux de façon à garder l'incognito. Yardena sortait par le portail, vêtue d'une courte robe noire, élégante et décolletée. Elle étendit une longue jambe et posa le pied sur le pare-choc arrière de son auto. Elle fouilla un moment dans son porte-monnaie et en sortit un trousseau de clés. Elle alluma une cigarette, secoua fébrilement l'allumette qu'elle jeta ensuite à ses pieds et démarra vers ses occupations. L'homme releva sa casquette et la rabaissa aussitôt. Le portail s'ouvrait à nouveau. Les deux autres sortaient maintenant. À leurs habits, on aurait pu dire si leur but était l'amusement, l'achat de quelques friandises ou la recherche d'une pharmacie. Comme elle ne revenait pas, il releva sa casquette et s'apprêtait à frapper à la porte de la vieille. Si elle l'invitait à s'asseoir, il ne refuserait pas. Dans le cas contraire, il se ferait inviter debout et il entamerait la conversation avec elle-même, même si la roumaine devait le fusiller du regard. Soudain, le portail s'ouvrit pour la troisième fois, laissant passage à une femme âgée et haute de taille. Elle était coiffée d'un chapeau noir et vêtue d'un deux-pièces élégant. À ses pieds, elle portait de lourdes chaussures de sport. Elle regarda çà et là d'un œil inquiet sans l'apercevoir. Mais lui, il avait reconnu cette femme qu'il avait accueillie 2 jours plus tôt, toute raide dans sa chaise roulante. C'était bien Madame Hannah Yon en chair et en os. Elle continua à scruter à gauche et à droite et se dirigea rapidement vers le carrefour. Il rabaissa encore une fois sa casquette sur son front, se mit en marche et lui emboîta le pas, suivant de loin le sillage de son chapeau. Elle marchait vers le centre-ville et traversa une artère bruyante. Il se demandait si elle déménageait ou bien si elle savait vraiment où elle allait et si elle saurait aussi revenir. La police réclamait tous les jours l'assistance du public dans l'identification de personnes âgées qui avaient perdu leur chemin. En général, on les retrouvait une semaine plus tard dans un fossé ou en salle d'urgence. La femme remonta son sac sur son épaule et l'homme suivait toujours le chapeau, cette colonne de fumée dans son désert à lui. Arrivant au vieux quartier de Nahalat Shiva, elle disparut dans l'une des ruelles et il la perdit de vue. Il se mit à courir et à chercher et, enfin, l'aperçut qui marchait dans la rue des pubs au milieu des relents d'alcool, des éclats de rire et des flonflons de musique. Confiant dans l'obscurité et dans sa casquette, il se rapprocha jusqu'à n'être plus qu'à un pas d'elle. Il manqua de la bousculer lorsqu'elle s'arrêta. Il se plaqua au mur et ne bougea pas. Elle ôta le sac de son épaule et le déposa sur les pavés de la ruelle. Elle enleva ses chaussures de sport qu'elle remplaça par d'élégants souliers à talons qu'elle avait tirés d'un sachet. Essoufflée par l'effort, elle se redressa, arrangea son chapeau, ajusta sa jaquette et se dandina sur ses talons vers le bout de l'impasse. Elle longeait le mur, marchant avec hésitation comme le font les vieillards, les mains en avant pour se prévenir d'une chute. « Elle est timbrée, c'est sûr, » pensa-t-il. « Elle va trébucher entre 2 pavés et elle va se rompre le cou. » Il prit peur et régla son pas sur celui de la vieille femme. Il tourna après elle dans un recoin et s'arrêta comme elle devant le clignotement des néons d'un pub aux lumières tamisées. « Hanale, la reine des mannequins !» cria le sélecteur en braquant sur elle sa lampe de poche. « Ce chapeau vous donne 18 ans, 20 au plus !» Elle éclata de rire, esquissa une pirouette, manqua de se flanquer par terre, se retint à l'épaule du gardien et reprit son équilibre. Il l'aida à franchir le seuil et revint s'asseoir sur sa chaise en soupirant. Puis, remuant la tête de gauche à droite, il prononça en yiddish « Quelle tête fêlée !» Le nouveau locataire ôta sa casquette, reprit son allure de petit fonctionnaire, subit l'examen du cerbère, remit son couvre-chef et entra derrière sa propriétaire. Il ajusta ses lunettes et suivit des yeux le chapeau. La vieille dame passait entre les tables sans sembler réveiller la moindre curiosité. Apparemment, le phénomène se renouvelait tous les samedis soirs. Le garçon lui apporta une bière et une soucoupe d'asperges. Elle ne s'était pas encore installée que 2 hommes venaient s'asseoir à sa table. Ils trinquèrent avec elle et elle semblait se délecter au goût de la boisson. Les nouveaux venus avaient certainement 20 ans de moins que la vieille dame. Ils lui parlaient, penchés sur elle. Elle riait et buvait. Le nouveau locataire se sentit découragé. Il avait découvert le pot aux roses. Il s'assit à une table et commanda un bock. Si l'heure n'était pas si avancée, il aurait appelé Brouchy et lui aurait annoncé que tout était perdu. Ces 2 types les avaient devancés. Ils avaient déjà jeté leurs hameçons. Ces 2-là lui font de la réanimation artificielle, la cajole, lui font des mamours, et elle boit des bocs les uns après les autres, elle éclate de rire, elle tripote son chapeau, passe sa langue sur ses lèvres desséchées et se fait des yeux en amande comme une fille qu'on reluque. La rose est là dans son pot, et on lui propose une amourette en échange de sa maison. Comment pourrait-elle résister ? Il commanda une seconde bière. Après l'avoir vidé, il s'offrit un whisky.